Stadium Ligue 1, le podcast sur l'actualité du championnat de France de football.
Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur Stadium Ligue 1, le podcast qui parle du meilleur championnat d'Europe, du monde et de la galaxie. Je suis très content de vous retrouver pour cette 24e journée de notre beau championnat. Et oui, le championnat avance, il reste plus que 10 journées. C'est allé à une vitesse folle et pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai 3 personnes, 3 compères, ça arrive pas souvent. Donc profitons-en, bien sûr, l'habitué, le crooner qui est souvent avec nous en ce moment, Alexis, comment tu vas ?
Salut Desti, bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci beaucoup de cette introduction. Je suis content de faire partie de cette équipe toutes les semaines et c'est un honneur pour moi. Voilà.
Mais c'est un honneur de t'avoir Alexis avec nous. Quelqu'un qui fait son retour, qui n'est pas venu depuis un petit moment, la légende veut que c'est le bras droit du prince de Monaco. Comment tu vas Max ?
Salut Dusty, salut Alexis, bonjour à tous. Ça va bien. Oui, ça fait bizarre, ça fait longtemps, mais ça fait toujours plaisir d'être avec toi et avec tout le monde pour débriefer football.
Nice, je suis très content aussi de t'avoir avec nous. Et enfin, le dernier, je suis sûr qu'il vous a manqué, la machine, l'homme qui a le verbe acerbe, Thibaut, comment tu vas ?
Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être là. Effectivement, je fais un peu aussi mon retour. Voilà, pour parler de Ligue 1, on est là, on est prêt et on attend que ça. Voilà.
Nickel. Bon, je suis content de vous avoir, les gars, avec moi aujourd'hui pour parler de deux gros matchs. Très grosse journée en ce moment, on a vraiment des très beaux matchs, on en a vu la semaine dernière. Cette semaine, dès le vendredi, on va commencer par un Monaco-Paris. Et ensuite, le dimanche, on aura aussi un Olympique Lyonnais-Lens. Et on va tout de suite commencer par ce premier match, Monaco versus Paris. Alors, Monaco-Paris, c'est, je ne sais pas si vous en souvenez au match aller, ça avait fini en 5-2, le PSG qui s'était quand même, on va dire, qui avait plutôt bien géré ce match face à un Monaco qui avait essayé de se battre mais qui n'a jamais vraiment réussi à mener. En termes de confrontation entre Monaco et Paris, c'est vrai que ces derniers temps, ça a beaucoup joué en la faveur de Monaco. On se souvient de l'année dernière, ils avaient gagné 3-1 chez eux, ils avaient fait match nul au Parc. Et puis voilà, 2 ans avant, c'était chacun avait gagné à domicile. Donc c'est des matchs qui sont quand même assez équilibré. Monaco qui est sur, on va dire, une bonne phase, qui a gagné son dernier match face au FC Lens, 3-2. Alors, on va en reparler rapidement de ce match pour parler de la rencontre face au PSG. On a vu que c'est quand même un Monaco qui est sur deux vitesses. En face de lui, on a un PSG qui a été, on va dire, bousculé par Rennes. Max, je te l'ai pas demandé, je voulais pas te chauffer un peu. Pénalty ou pas pénalty ?
Moi, je le siffle. Je le siffle. Le premier, il n'y a rien. Le deuxième, je le siffle. Il y a contact. Certes, l'attaquant accentue le geste, mais il faut faire preuve d'objectivité. Donc, même en tant que supporter rennais, même si c'est à toute fin du match, malheureusement pour Rennes, il y a une faute, pour ma part, sur l'attaquant parisien.
C'est beau. Non, c'est beau. J'aime le fair play. Thibaut, ton tant que supporter parisien, d'accord, pas d'accord?
Ouais. Enfin, c'est moi. Je trouve ça un peu léger, mais c'est vrai qu'il y a eu cette première faute qu'il y a juste un peu avant. Ensuite, je sais pas si on peut appeler ça faute vu que la VAR l'a refusé. Plus ça, on va dire que Ramos la joue à l'expérience et il va chercher le penalty. Donc bon, je dirais, je dirais oui, il y a faute. Mais si ça ne se siffle pas, c'est pas choquant, voilà. Mais on peut dire qu'il va jouer à l'expérience et qu'il va chercher le penalty. Donc bon, okay. L'arbitre a sifflé, voilà, c'est comme ça. On va pas revenir sur le, voilà, c'est un fait de match et tant mieux pour le PSG, on va dire.
Et rapidement, pour avoir, on va dire, quelqu'un pour trancher au milieu, Alexis, toi. Tu penses tu trouves qu'il y a eu pénalty ou pas ?
Moi, je pense à penalty pour Nantes. Non, mais ouais, je vais suivre plutôt Thibaut aussi. Ça se voit, enfin, c'est pas que ça se voit expressément, mais Ramos, à ce stade du match, il cherche le penalty. On comprend plus ou moins que oui, il y a contact, oui, mais c'est aussi ce qu'il voulait. Donc, c'est une faute. Oui, ça se siffle, je pense. Voilà. Ça se siffle, mais c'est bien joué de la part de Ramos.
Ok. Bon, on va tout de suite retourner sur voilà l'actualité, le match qui nous attend de ce week-end, donc Monaco contre le PSG. Alors Monaco qui est troisième du championnat hein, finalement malgré des derniers matchs assez difficiles du côté de Monaco. On sentait que voilà sur cette année 2024 pardon, ils avaient quand même un peu de mal, hein. Ils ont perdu le match avant face à Toulouse, ils gagnent avant à Nice à l'extérieur, ils font match nul contre le Havre. Bref, une équipe un peu en dents de scie alors que c'est vraiment la période où Monaco d'habitude en championnat explose et où la machine est à fond. On va commencer avec toi, Maxime, ça fait longtemps qu'on t'a pas entendu. Aujourd'hui, on a un Monaco laborieux, mais qui est quand même troisième, qui est parti sur une compo un peu différente face à Lens, où on a vu notamment Golovin, Minamino, Ben Yedder et Balogun titularisés en même temps, ce qui n'arrive pas très souvent. D'habitude, il en titularisait deux, qui s'est présenté même dans une sorte de 4-4-2 avec un Minamino très excentré sur les côtés. Est-ce que tu penses que ce Monaco-là peut menacer ce PSG à domicile et surtout quel type de compo on peut s'attendre face à ce PSG ce week-end?
C'est vrai que depuis quelques matchs, on voit un Monaco qui encaisse des buts. Ils ont encaissé des buts depuis début décembre. Depuis début décembre, depuis le 3 décembre pour être précis, Monaco a encaissé des buts à chaque match. Alors, ça joue plus offensif sur ces derniers matchs. On le voit, hein, il y a plus de buts marqués. Contre Nice, ils en mettent 3, ils en encaissent 2. Contre Lens, ils en mettent 3, ils en encaissent 2. Contre Toulouse, malheureusement, ils en encaissent encore 2, mais ils en mettent qu'un. Donc, c'est vrai que là, Monaco joue plus offensif, encaisse des buts, du coup. Ça fait bizarre, comme c'est vrai qu'on en a parlé beaucoup au début de saison, avec soit la titularisation de Balogun, soit la titularisation de Ben Yedder. Sur le dernier match, on a vu qu'il a mis les deux. Je pense que en jouant le PSG, tu n'alignes pas forcément la composition la plus offensive possible. Donc, moi, je les vois bien retourner à un dispositif comme celui auparavant, avec les deux 10 et l'attaquant de pointe qui se trouve soit sera Ben Yedder, soit sera Balogun, et avec les deux 10 comme ils avaient auparavant, donc Golovin, Minamino. Moi, c'est plutôt comme ça que je le vois, parce que c'est vrai qu'ils ont beaucoup joué avec ce dispositif. C'est vraiment récent, ce changement de dispositif de la part du coach. Et donc, je les vois changer de dispositif pour revenir au dispositif précédent, essayer d'encaisser peut-être moins de buts, parce que ça peut être compliqué, ça peut aller très vite côté Paris Saint-Germain.
Ok. Thibaut, je vais te lancer d'ailleurs sur ce sujet, on va rebondir sur la compo, sachant que ce week-end, Zakaria est suspendu à accumulation de cartons jaunes. Par contre, on a le retour de Thilo Kehrer et de Akliouche. On a vu qu'Akliouche quand même a produit des très beaux matchs ces derniers temps, notamment dans cette compo hein, dont Maxime parlait avec ses deux milieux offensifs. Est-ce que toi, tu penses que ce retour justement d'Akliouche peut changer un peu la donne aussi en termes de compo? Est-ce que tu penses que Uther, voilà, va retourner sur une compo un peu plus classique face à ce PSG pour se mettre dans des bonnes conditions?
Ben moi je pense qu'il va garder la même compo. Je pense qu'il va garder la même compo là, 4-3-3. Après, comme tu as dit, ben, peut-être que Zakaria il va le remplacer par je ne sais pas par qui il peut le remplacer. D'ailleurs, Ben Seguir, non, peut-être pas Ben Seguir, ouais, je suis peut-être Ben Seguir, ou à la rigueur, peut-être, je sais pas, Diop ou un truc comme ça. Mais bon, pour le moment, moi, je vois que ça a l'air équilibré. Juste par contre, là, c'est vrai que, comme a dit Maxime, je rejoins Maxime sur ce qu'il a dit avant, la défense, Singo, Maripane, Salisu, Ouattara. C'est pas fou. Allez, peut-être que Salisu qui fait un bon match contre Lens, et Madjeki qui sort beaucoup de balles. Donc heureusement qu'ils ont Madjeki et Salisu pour remonter un peu le niveau derrière. Mais sinon oui, devant c'est ça marque, c'est bien équilibré. Minamino extraordinaire. Voilà, Balogun, il commence à marquer. Moi je vois bien Balogun en tout cas devant, qui peut mettre en danger les défenseurs parisiens, surtout si parce que je pense que avec sa vitesse, il peut passer facilement derrière Danilo ou Beraldo. Donc j'espère que les après à voir, tu vois, mais je pense que c'est une équipe qui fait du Monaco. Ils ont gagné 3-2 à Lens. Il fallait aller chercher la victoire. Ils sont allés la chercher. Je pense à l'expérience, pour le coup. Donc voilà, c'était assez équilibré, les stats sur le match précédent. Mais là, ça sera une autre. Enfin, ça sera un match différent vu que c'est le Paris Saint-Germain en face. Donc il faudra qu'ils soient un peu plus solides
Ok.
défensivement. Sinon, ils vont en prendre 3 ou 4, hein, je pense. Donc il faudra qu'ils soient.
Ah, ils en ont pris 5 déjà à l'aller, hein, donc t'es pas très loin de la vérité, on va
Ouais, ils prennent
dire.
5-2, c'est vrai, ils en ont pris 5, ouais, c'est vrai. Non, mais il faut qu'ils soient plus solides défensivement. Ouais.
Alex, d'ailleurs, l'une des particularités de Monaco, hein, au-delà de cette compo, et puis justement, Tibbs en parlait, ses problèmes défensifs, Monaco, c'est une équipe qui a du mal à domicile. Monaco n'a aucune victoire sur ses 4 derniers matchs à domicile. On le voit, elle galère beaucoup. Actuellement, je crois que Monaco, à domicile, c'est 6 victoires, un nul et 4 défaites. Quand on voit qu'à l'extérieur, c'est 6 victoires, 4 nuls et 2 défaites, donc 2 défaites de moins. Donc, ils ont quand même du mal à domicile, cette équipe, assez étrangement. Enfin, assez étrangement. On se le demande.
Comme
Justement, est-ce
d'habitude, hein.
que... Ouais, c'est vrai, comme d'habitude. Et surtout, ce qui m'a frappé face au match de Lens, c'est qu'ils ont fait une très bonne première mi-temps, où tu sentais qu'ils mettaient de l'impact, où Lens était en difficulté. Et la deuxième mi-temps, ils sont complètement écroulés. Enfin, complètement écroulés. On a vu que Francaise a fait des changements qui étaient intelligents, notamment avec l'entrée de Sotoka. Et sauf... S'il n'y a pas voilà cet exploit de Minamino qui fait un match énorme d'ailleurs, bah Monaco pouvait même perdre ce match. Toi, est-ce que tu penses que ce Monaco-là, à domicile, avec ce que je t'ai dit, ce que les autres ont dit, peut justement faire ce coup face au PSG? Quels sont ses points forts et ses points faibles par rapport à ce PSG?
Ben justement, c'est vrai que Monaco, c'est assez poussif à domicile et en général, ils mènent souvent au score au tout début de match. Enfin, ils font des très très bons débuts de match. Mais après, ils s'écroulent toujours en fin de match ou en deuxième mi-temps, à la rentrée des vestiaires, etc. Il y a toujours un moment de passage à vide où c'est pas qu'ils arrêtent de jouer, mais ce qu'ils essayent ne marche plus. Leurs passes n'arrivent plus à destination. Les arrêts sont un peu moins fermes. Les tacles aussi. Et c'est intéressant parce que ça va être aussi intéressant pour le PSG justement de savoir contrer, enfin pas contrer ça, mais ouais, prendre son avantage là-dessus et préparer le match de cette semaine en Ligue des Champions. Mais Monaco, oui, c'est vrai, c'est ce que je disais, ils n'arrivent pas à tenir un score, ils se font toujours peur à prendre des buts à chaque fois qu'ils en mettent un, à être menés alors qu'ils menaient au début. Là, sur les quelques derniers matchs qu'ils ont faits, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, bah, ils se font peur, voilà, contre Nice, alors qu'ils sont à 10, contre Lens, contre Toulouse aussi, défaite assez naufrage, si on peut dire, comme contre Rouen aussi. Donc, moi, je vois ça compliqué, en fait, pour Monaco contre Paris. Ils sont pas forcément dans les meilleures dispositions pour ce match-là. Et ouais, j'attends de voir ce que Luther va nous proposer. Thibaut, ouais, Thibaut parlait de Majewski et enfin, de la compo du coup pour l'attaquant et pour le gardien. J'ai l'impression de voir du coup depuis le but magnifique de Siro à Toulouse contre Monaco que Luther a pas apprécié l'erreur
Ah,
de son
pas
gardien
du tout.
suisse et qu'il l'a direct remplacé par Majewski. Et j'ai l'impression qu'il va peut-être faire la même chose avec Balogun contre Paris, avec son petit penalty qu'il a bien raté comme il fallait.
Ouais, mais Balogun, il sait pas tirer les pénaltys. À chaque fois
qu'il arrête,
hein.
Il arrête de le faire tirer, tout simplement. Il a Ben Yedder ou Minamino, il les fait pas tirer, alors qu'ils sont largement plus aptes à tirer les pénaux pour moi. Après,
mais ouais, oui, je suis d'accord. Et justement, je trouve ça plutôt miraculeux qu'ils aient gagné ce match-là, alors qu'ils avaient une bonne cartouche avec le penalty et qu'ils l'ont jeté par la fenêtre en lançant Balogun.
Ok.
Mais justement, au tout début, j'avais vu Fofana prendre le ballon pour tirer et je me suis dit, tiens, peut-être, pourquoi pas refaire comme la Coupe du Monde.
Non, il a voulu rester. C'est quoi? C'est son troisième penalty qu'il loupe, puisqu'il en a loupé deux face à Nice, face à Boulka. Là, il en loupe encore un. C'est son troisième penalty loupé. Ouais, c'est.
Je l'ai vu louper plein de fois.
Parce que c'est vrai qu'il a envie de se mettre en confiance. Il a envie de marquer. Exactement. C'est ce qu'il a besoin. Donc c'est vrai qu'il a envie aussi lui d'arrêter cette malédiction de penalty raté, je pense.
Surtout qu'il met un beau but aussi, le premier but face à Lens, où physiquement il écrase Danso, il pénètre bien dans la surface, enfin il met un vrai joli but d'attaquant en première mi-temps. C'est vrai que ce penalty, bah ça vient apporter un peu d'ombre à son match. Du coup, voilà, on a fait un peu les points faibles, points forts de Monaco. On a vu que voilà, ils ont quand même une attaque assez solide et défensivement, bah ça peine. Et puis il y a pas cette stabilité au niveau du gardien, puisque avant c'était Kone qui faisait beaucoup d'erreurs, qui a été remplacé par Maïski, qui prend quand même deux buts ce week-end, même s'il fait des très beaux arrêts hein, face à Lens. Mais en face d'eux, ils auront un PSG. Un PSG qui, dans quelques jours, va jouer la Ligue des Champions. Alors certes, ils ont gagné 2-0 au match aller face à la Real. On va dire qu'ils sont dans une position assez confortable, même si avec le PSG, il peut tout se passer. Je pense que l'histoire nous a montré que tant que l'arbitre n'a pas sifflé, on n'est pas sûr que le PSG soit qualifié. Mais ce que je voulais être sûr et vérifier, c'est comment le PSG était avant les matchs de Ligue des Champions. Avant les matchs de Ligue des Champions, le PSG, c'est 5 victoires, un nul et une défaite, donc ils sont quand même assez solides, hein. Leur défaite c'était face à Nice en début de saison, on a vu où Nice avait très bien maîtrisé le match, et leur nul c'était face à Clermont, où là ils avaient clairement manqué d'efficacité, mais sinon de manière générale ils gagnaient toujours avant le match de Ligue des Champions. Ils ont même gagné face à Lille récemment en championnat, où voilà, ils ont quand même bien maîtrisé le match. Max, je vais commencer avec toi. On a vu que, bah voilà, sans parler du cas Mbappé, est-ce que on peut s'attendre en termes de compo à voir un Mbappé, puisqu'on sait quand même que Luis aime préserver ses joueurs, est-ce qu'on peut s'attendre à voir les cadres sur le banc et notamment Mbappé sur le banc?
Moi, je pense qu'il y a une saison qui est en cours. Donc, le coach l'a dit, oui, il faut s'habituer à jouer sans Mbappé, mais même s'il y a de l'avance en championnat, il faut les gagner les matchs. Donc, pourquoi se priver de Mbappé titulaire alors qu'il fait toujours partie de l'effectif, et que oui, le PSG est peut-être un peu énervé du départ de Mbappé, mais c'était au PSG de le prévoir un petit peu en amont, faire signer des contrats un an, plus un an si jamais tu veux. À un moment, ils peuvent aussi s'en prendre à eux-mêmes. Donc moi, je vois plutôt les cadres titulaires, parce que quand on est le PSG et qu'on sait qu'on va jouer tous les 3 jours dans les fortes périodes, parce que oui, il y a la Coupe de France aussi, mais qui a du coup été décalée un peu plus tard. Mais quand il y a la Coupe de France, quand il y a la Ligue 1, quand il y a la Ligue des Champions, le PSG a un effectif qui doit être taillé justement pour jouer toutes ces compétitions. Donc le fait de tous les mettre en rythme, quitte à les faire sortir au bout de la 60e, 70e, en fonction du résultat, oui, pourquoi pas. Mais moi, je vois plutôt les cadres titulaires, parce que c'est un gros match contre Monaco et qu'il y a 3 points à prendre pour le PSG.
Ok. Thibaut, je vais te lancer sur le sujet. Toi, au niveau de la compo, parce que je pose la question aussi, parce que contre Lille, alors certes, il y avait des joueurs qui n'étaient pas encore totalement à fond, mais contre Lille, donc avant le match face à la Real, le match aller, on a vu que Luis avait fait un certain turnover. On avait notamment vu Mukiele titulaire. Il avait joué avec un milieu avec Ugarte, Ruiz et Asensio. Enfin, il avait fait une compo un peu en 4-4. Sa compo habituelle. On a vu un Kolo Muani et un Ramos aussi titulaire. Est-ce que toi, t'es du même avis? Tu penses que on va voir les cadres sur le terrain ou justement pour les préserver avant la Ligue des Champions, un certain turnover, sachant que je crois que Luis Enrique n'a jamais fait deux fois la même compo.
Ouais, c'est ce que j'allais dire. Et en fait, Lucho, Luis Enrique, il tourne en fait à chaque fois. C'est jamais la même équipe qui est alignée. Donc, je pense qu'il va continuer comme ça. Faut attendre à des changements pour vendredi soir. Là, c'était ce week-end, c'était Lee, Ruiz et Vitinha au milieu de terrain. Je pense que là, il va faire tourner pareil. Hein. Je pense que Lee, il va sortir un petit peu. Hein. Il va aller s'asseoir un peu sur le banc de touche, celui-là. Je pense qu'il va sûrement mettre Asensio. Pour le préparer à San Sebastian là, à la Real. Donc je pense qu'il va mettre Asensio pour le mettre en jambe un petit peu. Devant, je sais à mon avis devant ça changera pas. Alors peut-être qu'il va faire reposer Mbappé ou Barcola, je sais pas, mais peut-être Ramos jouera à la place d'Mbappé sûrement pour se faire souffler un peu Kylian, même si ça lui plaît pas. Il n'est pas forcément dans la forme en forme idéale, hein, on va dire. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il l'a sorti et je lui tire mon chapeau qu'il l'ait sorti. C'est le premier entraîneur qui porte ses coronets, hein. Il me comprendra, Lucho. il a bien fait de le sortir et merci à lui. Pour une fois qu'il y a un coach qui sort un mec qui est pas bon, je suis désolé, il sort tout simplement, voilà, tu fais rentrer quelqu'un d'autre. Même si c'est le meilleur joueur de ton effectif, tu as des jours sans et tu as des jours avec. Alors excusez-moi monsieur Mbappé si on vous fait sortir. Voilà, mais ce match-là, je suis désolé mais vous n'avez pas été bon. Donc, il faut aller s'asseoir 5 minutes et voilà, y réfléchir un petit peu et sur le prochain match, tu mettras un doublé. Tout simplement. Donc voilà, tant mieux que ça soit ce match-là qui a pas été bon. À la Real Sociedad, peut-être, j'espère qu'il mettra un triplé ou un doublé. Mais en attendant, voilà, faut qu'il se repose un peu. Peut-être qu'il fera tourner. Il mettra Ramos qui a donné beaucoup d'envie. J'ai bien aimé sa rentrée. Donc, j'aimerais bien qu'il mette Ramos un peu en pointe. Asensio, peut-être un peu derrière en espèce de faux 10 ou un petit peu sur le côté en espèce de milieu un peu désaxé. Voilà, Vitinha aussi pareil, super, faut qu'il reste là. Dembélé pareil, il apporte beaucoup, c'est le seul qui provoque, qui donne un peu le tournis aux défenseurs, il met un peu de peps. Alors oui, il marque pas comme d'habitude, je le répète, mais il est très très important, Dembélé. Donc voilà, non, Lucho, en tout cas pour répondre à ta question, il va, je pense qu'il va tourner. On n'aura pas la même équipe, même peut-être derrière on n'aura pas la même défense. Par contre, ouais, voilà, Pereira aussi, faut qu'il souffle un petit peu. Donnarumma, faut qu'il fasse un peu attention à ce qu'il fait aussi, parce que c'est des fois c'est un peu hasardeux dans toutes les relances où il est pas très à l'aise du pied, on le connaît. Voilà, enfin, pour répondre à ta question, oui, il va faire tourner, tout simplement.
Ok. Voilà. Ok. Bon, on va voilà, Alex, pour couper la poire en deux. Toi, ouais. Tu t'attends à quel type de compo? On a vu qu'on a quand même voilà entre Thibaut et Max deux avis différents. Voilà, d'un point de vue général, est-ce que toi tu penses qu'il va faire tourner ou il va quand même mettre les cadres pour les préparer au match de Ligue des Champions qui les attend l'année prochaine? Et surtout, ce que je voulais te demander. Qu'est-ce que tu attends, enfin, qu'est-ce que tu vois, toi, comme type de défense? On a vu que là, le PSG est au complet, il n'y a plus de blessés, on va dire, à court terme. Hein. Alors, il y a les blessés à long terme, comme Kimpembe, Rico, mais voilà, on le répète toute la semaine, on ne va pas encore le répéter. On a vu que le groupe est au complet, Marquinhos est revenu, Nuno Mendes est revenu dans le groupe, il a même joué le week-end dernier, ça fait très plaisir de le revoir sur les terrains. Donc, d'un point de vue général, rapidement, toi, tu penses que la compo va changer? Et surtout, quel type de défense face à un Monaco qui a une attaque qui est l'une des meilleures attaques du championnat? Il me semble qu'ils sont actuellement à 44 buts. Donc c'est la deuxième meilleure attaque du championnat derrière le PSG qui a 54 buts.
Ouais, donc comme tu dis, beaucoup de choses ont été dites un peu de deux avis différents. Moi, encore une fois, je vais suivre plutôt Thibaut. C'est rien contre Maxime. Hein. mais je pense que
personne ne va dire j'aurais raison dans tous les cas.
J'ouvre la voie. J'ouvre la voie.
Ah, mais je crois que c'est parce que tu as dit que Nantes, c'était pas en Bretagne et tout ça, donc ils t'en avaient
encore. Voilà, un truc comme ça.
C'est pour ça.
Désolé. C'est ce genre de choses. Non, je pense oui que Luis va encore faire tourner pas forcément toute l'équipe, mais peut-être un cadre par ligne sur le terrain, donc un attaquant, un défenseur, un milieu. Donc je pense que les plus gros et Mbappé risquent de pas jouer tout le match. Encore une fois, on voit que juste avant le match contre la Real, contre Lille, il était resté sur le banc, il n'était pas rentré en jeu. Bon, après c'est dans un contexte un peu différent, je sais. On venait de découvrir quelques prochaines destinations de vacances pour Mbappé l'été prochain, de vacances ou autres, hein, bien sûr. Mais donc, ouais, une semaine après, contre Nantes, il a joué qu'une seule demi-heure. Et là, contre Rennes, pareil, il a joué une heure sans force, voilà, en levant le pied un peu. Donc je pense que ce week-end, ça va être plus ou moins pareil. Mbappé va être préservé pour la Real et voilà, comme les gros joueurs. Je m'attends pour la défense à un retour de Nuno, comme tu disais si bien. Seulement parce que voilà, il pourra potentiellement pas jouer le match contre la Real, vu qu'il vient de revenir, que Luis veut potentiellement plutôt faire jouer ceux qui seront en forme depuis longtemps, plutôt que qu'un revenant. Donc voilà, je pense qu'il va en profiter de ce match, de ce petit match entre guillemets, hein, bien sûr, entre gros guillemets, contre Monaco pour faire jouer ceux qui ont besoin de temps de jeu, donc Beraldo, Nuno Mendes, faire tourner et faire reposer Mbappé, Lee et peut-être Marquinhos même, on ne sait pas. En défense, je suis assez pas douteux, mais j'ai pas de décision, on va dire.
Ok.
Sur ce que j'attends exactement.
Max, rapidement, dernier commentaire. Vite fait, toi, tu penses que où va se jouer le match ? Quel va être le point décisif de ce match ? Quel va être le point clé de ce match ?
Je pense que ça va être un match avec énormément de jeux. Parce que c'est vrai qu'il y a Monaco qui va avoir beaucoup d'absents au milieu de terrain. Et donc, c'est là où le PSG va pouvoir faire la différence. Je pense que ça va jouer au milieu de terrain et qu'il y aura justement beaucoup de décalage dans la défense monégasque qui prend déjà pas mal de buts et que le PSG va avoir une domination comme régulièrement à quasiment chaque match. Et ça va plutôt jouer au milieu de terrain parce que Monaco va avoir du mal. Mais au niveau de la composition d'équipe, côté PSG, moi je verrais Donnarumma dans les buts, Hakimi à droite, Danilo Beraldo au centre, Hernandez à gauche parce que Nuno Mendes revient quand même de blessure, donc il va pouvoir le faire rentrer pour lui donner du rythme. Moi, je le vois plutôt comme ça. Et au milieu de terrain, je dirais Zaïre Emery, Ugarte, Ruiz, histoire d'avoir vraiment une emprise au milieu de terrain. Et devant, Dembélé à droite, Mbappé en pointe parce que je le vois titulaire et je le vois sortir justement du match. Et côté gauche, pourquoi pas faire tourner Barcola et faire jouer Colomoigny. À la limite, c'est ça que je vois, histoire de bien préparer la Real Sociedad et faire les changements à la 60e, histoire de pouvoir quand même compter sur les autres sur le match de la Ligue des Champions.
Et mais ça va jouer au milieu de terrain pour moi.
Le score que j'ai en tête, je dirais 3-1 PSG. Parce que c'est vrai que malheureusement, Monaco a quand même beaucoup d'absents. Ça va vraiment peser sur le match, je pense. J'ai donné la composition PSG, je vais donner celle de Monaco pour moi. Donc Majewski dans les buts. Je verrai une défense à 3 du coup avec Kjaer, Maripane et Salisu. Un milieu de terrain donc à 4 avec Singo à droite, Magassa, Fofana dans l'axe, Ouattara côté gauche. Les 2-10, Minamino, Golovin. Et devant Balogun pour faire rentrer Ben Yedder potentiellement à la 70e quand la défense du PSG sera un petit peu fatiguée et créer des brèches pour, pour Ben Yedder.
Ok. Thibaut, rapidement, tu as un score pour moi?
Ouais, j'ai un score pour toi. Je pense exactement comme Maxime. Les deux équipes marquent et plus de 2,5 buts et 3-1 Paris. Voilà. Et puis la petite cerise sur le gâteau, un but de Bradley Barcola. Voilà. Voilà. Mais je vois bien Randal Kolo Muani, effectivement, comme il a dit Maxime, jouer un petit peu. J'aimerais bien voir une petite attaque Randal, Ramos et à droite Ousmane Dembélé. Et après en deuxième mi-temps, peut-être Kylian qui rentre avec Bradley pour mettre un peu plus
d'intensité. Finir le travail.
Pour finir le travail. Je vois ça comme ça.
Ok, nickel. Alexis, un petit score pour moi rapidement.
Bah justement. Vous faites chier les gars, parce que j'allais dire 3-1 et je vois que tout le monde
dit 3-1. Ouais, mais tu peux, hein, tu peux. Eh, si vous êtes tous d'accord, bah tant mieux, hein, nos auditeurs seront contents, ouais. Moi je suis unanime, ils n'auront pas hésité ce week-end en faisant
un petit game. Dusty, on te connaît, tu vas dire 3-1 pour Monaco, c'est bon, t'as pas besoin
non, de... Non, moi je me prononce pas aujourd'hui, là vous êtes déjà assez, je me prononce pas, moi je suis là en spectateur, donc 3-1 pour toi Alexis aussi.
Ouais, carrément, ouais. Okay. Avec un petit but contre le comme Donnarumma.
On se compte tous là.
T'as dit quoi?
Si on se plante, on se plante tous.
Ah ouais, terrible là.
On coule tous ensemble, les gars. Tous ensemble.
C'est grave. Mais c'est bien, c'est une équipe, vous êtes solidaires. ok. Bon, on va passer au match suivant maintenant les copains. L'Olympique Lyonnais face à Lens. Alors, l'Olympique Lyonnais face à Lens, c'est un match qui. Déjà, le match aller, c'était. On va dire, a été rempli de spectacles, donc, parce que Lens était imposé 3-2 à domicile face à Lyon. De manière générale, depuis que Lens est revenu en Ligue 1, les débats sont plutôt équilibrés. Je crois que Lyon les bat, balance 3 fois, Lens les bat 2 fois. Après, c'est des matchs nuls, hein. Il y a eu à peu près 8-9 confrontations entre eux. Donc, voilà, 2 matchs serrés. C'est vrai qu'on a vu que Lens, on en parlait avec Monaco, Lens s'est incliné face à Monaco 3-2 en toute fin de match sur un but de Minamino. Quand de l'autre côté, Lyon, qui a eu du mal à rentrer dans son qui a eu du mal à rentrer dans son match, mais qui s'est imposé face au FC Metz 2-1 avec un but de l'inévitable Ben Yedder, Lacazette, face à un Metz qui avait certes bien commencé avec un but de Mikotadze, mais au final qui s'est incliné, hein, Metz qui a toujours autant de mal dans cette Ligue 1. Alors, moi, je rentre direct, hein, les deux pieds dans le plat. On va commencer avec toi, Thibaut. Est-ce que Lyon est juste intouchable en ce moment? Je m'explique. Lyon, c'est 5 victoires de suite. Si on compte sur les 6 derniers matchs, Lyon est 3e de Ligue 1.
Effectivement, match du dimanche soir, 20h45 à Lyon. Le 10e, oui, je répète, Lyon est 10e et n'est plus relégable.
C'est fou, hein.
10e, ouais, c'est fou, contre les 100 et or, effectivement. Donc, ça va être un beau match. Comme tu dis, Lyon, ils sont sur 6 victoires de suite, toutes compétitions confondues, hein, parce qu'ils viennent de se qualifier en Coupe de France contre Strasbourg. Voilà. Quelle remontée, la touche sage fait mouche. On dirait c'était. En fait, au final, on dirait juste que c'était mental. Leur problème finalement, hein, on va dire ça comme ça, et on voit des Lyonnais avoir un peu confiance en eux, un Lacazette qui redevient capitaine, deuxième meilleur buteur du championnat avec 12 buts, qui redonne du souffle à cette équipe. Mais là en phase 2, ils auront des Lensois, voilà, c'est une équipe quand même sérieuse, donc je vois que tous les joueurs de Lyon reprennent un peu de plaisir à jouer ensemble, ça a l'air un peu plus cohérent qu'au début de saison. Maitland Niles arrière gauche, c'est plutôt pas mal, c'est mieux déjà comme le terrain. Matic aussi qui redonne un peu de d'équilibre à cette équipe au milieu de terrain. Alors Maxime peut-être qu'il en parlera après de Matic à Rennes, je sais pas si c'est bien ou pas, mais à Lyon en tout cas ça m'a l'air pas trop mal, avec à côté de lui Cacré, Lacazette devant, voilà, qui marque. Donc là ils ont retrouvé un petit équilibre, un petit 11 qui me semble pas mal, et comme j'ai dit, c'est plus eux, c'était, on dirait que c'était mental, quoi, honnêtement. Et voilà, donc 6 victoires de suite, limite je les mettrais même carrément favoris, parce que ces derniers matchs ils montrent vraiment un mental à toute épreuve. Et clairement, ils sont pas du tout ridicules. Donc à domicile, devant leur public, pourquoi pas aller attraper une équipe du top 6, pourquoi pas, et les Lensois qui sont un peu plus poussifs. Donc à voir, moi je la trouve très très plaisante cette équipe de Lens, à voir. Et du coup voilà, c'est plus équilibré qu'en début de saison, et je préfère ça, honnêtement. Je préfère les voir comme ça, une équipe qui va chercher des buts, qui se laisse pas abattre, même si on a vu contre Metz où Mikotadze avait marqué le premier but. Après, ils vont quand même chercher, voilà, ils vont chercher la victoire. Et ça montre beaucoup pour une équipe de Ligue 1. Ça, c'est vraiment au mental. Donc, je pense qu'ils ont trouvé Sage a su parler à ses joueurs. Donc, tant mieux. Donc, on verra. Ça va être un beau match. Et voilà.
Ok. Max, je vais rebondir ce qu'a dit Thibaut. Est-ce que pour toi, c'était que mental? Est-ce que au final, c'est tout ce qu'il fallait à Lyon? Moi, je pense quand même que voilà, il y a quand même une clé, les clés sont quand même différentes de leur succès. Mais toi, est-ce que comme Thibaut, tu penses que c'était que mental? Sachant que je me souviens en début de saison quand on en parlait et que bah moi j'étais là à dire bah voilà, Lyon,
On les
ce qu'ils
met
font là,
sur les
c'est de
gars.
leur faute, ils font n'importe quoi, c'est de leur faute. Toi, t'étais plutôt là. Toi, je sentais quand même, ça te peinait un peu de voir un club historique comme Lyon, ben, être aussi bas avec tous les moyens qu'ils ont. Donc, voilà, je voulais t'avis un peu dessus. Est-ce que tu penses que voilà, ce Lyon est intouchable, et est-ce que pour toi, c'était que mental?
Moi, je les vois pas intouchables. Mais j'ai toujours dit que Lyon avait un très bel effectif, que Lyon avait les qualités pour aller dans le haut du classement. Je l'ai jamais caché, même quand ils étaient relégables, c'est vrai que ça me faisait chier parce que pour être pour un peu mal parler, on va dire. Mais c'est vrai que leur recrutement leur a fait du bien parce que je pense que c'était il y avait beaucoup de mental, beaucoup beaucoup de mental qui fait que il y a un effectif qui est présent, qui a des qualités, on le voit parce que c'est vrai que oui, il y a des joueurs maintenant, des nouveaux joueurs qui sont titulaires, bien sûr. Mais c'est vrai qu'il y a quand même certains joueurs qui étaient déjà là au début de saison. Il y a eu un petit turnover sur certains. Mais je vois Lyon bon, comme ils doivent l'être, en fait, simplement. C'est juste que Lyon est une belle équipe, a un beau 11 de départ, des beaux remplaçants, ils ont un bel effectif. Et pour moi, ils n'étaient simplement pas à la place qu'ils devaient être. Et donc maintenant, c'est une erreur qui est réparée pour moi. Oui, c'était mental pendant ce début de saison.
Ok. Alexis, je vais te lancer aussi sur Lyon. Est-ce que tu penses que Pierre Sage, il a trouvé son 11? On voit qu'il s'appuie sur certains joueurs depuis, alors certains nouveaux joueurs qui sont arrivés depuis peu après le mercato, comme par exemple un Mangala au milieu, pardon, ou un Matic.
Orban,
Ouais,
Orban
ou
aussi.
un Matic, un Orban, et il s'appuie aussi sur certains leaders, que ce soit Lacazette, ou même on voit certains qui sont révélés, comme Cacré, ou même Maitland-Niles, qui faisait pas forcément un bon début de saison, et là, qui a enchaîné les titularisations. Est-ce que tu penses que ça y est, Pierre Sage a trouvé sa formule, cette formule qui va l'aider, bah, à garder Lyon en Ligue 1, parce que de toute façon, je pense que s'ils continuent comme ça, ils arriveront à se préserver en Ligue 1, mais surtout, bah, déjà à battre Lens dans un futur proche, et surtout viser les places européennes.
Alors, c'est une
Ça
longue
fait
question
beaucoup
avec
de
plein de
questions, je
choses à
suis
dire.
désolé.
Ouais. C'est pas grave, t'inquiète pas, je vais prendre ça linéairement. Tu m'as enchaîné, c'est clair. Alors, les places européennes, je pense, c'est un petit peu trop tard. Malgré le fait que des clubs comme justement Lille, Lens, Reims sont un peu moins en forme depuis 2024 et du coup perdent beaucoup de points et d'avance. Il y a Rennes qui quand même qui fait le forcing pour du coup shipper la enfin le top 4 en gros, et je pense qu'ils vont y arriver. Mais Lyon, je pense qu'il reste quand même, ça reste, ouais, je sais plus, ils ont 10 points de retard, je crois. Je vérifie ça rapidement,
Lyon, ils
mais ouais,
sont
10
à
points
vingt-huit
de
points
retard sur
et
la
le
cinquième place.
c'est ça, ouais.
Ouais, et Et Lille a
Mais
30 points, c'est ce qu'on
ce
va
qui est
dire
fou,
qu'ils vont
c'est que
jouer à la
tu
Ligue Europa
gagnes
quand
dans
même,
cette
plutôt que
Ligue 1,
la Ligue Europa Conférence.
tu gagnes 5 matchs. Hein, ce qui est fou, c'est que dans cette Ligue 1, tu gagnes 5 matchs et tu te retrouves, t'es relégable et tu te retrouves dixième. C'est ça qui est fou. Donc, comme quoi, tout est possible.
Ouais.
Ouais, c'est
Je
ça. Ouais.
te laisse continuer,
Ouais, c'est vrai.
Alex.
On a
Oui, c'est vrai.
même de l'espoir à Metz, Lorient et Clermont, du coup. du coup, je continue. Après, pour parler de Lyon, oui, je pense que ce match contre Lens arrive au bon moment parce qu'ils vont pouvoir, comme vous disiez tous, voilà, ils sont derrière Rennes seulement en 2024, ou sur les 5 derniers matchs en tout cas, donc top 2, top 3 de la Ligue 1 en ce moment, et qui vont pouvoir continuer sur leur lancée. Et de l'autre côté, Lens n'est pas forcément dans leur meilleure période depuis le mois de février en général. Ça fait 1 mois et demi qu'ils n'ont pas gagné, par exemple. Mais oui, Lyon, c'est super beau de voir ce qu'ils font, de continuer à pousser plus haut, de se donner à chaque match, corps et âme, de la première à la 90e minute, depuis le gardien jusqu'à l'attaquant, pour aller chipper les victoires, et puis surtout pour arrêter de prendre des buts aussi. Parce que là, ça fait. Donc, encore une fois, en 2024, ils ont pris quand même. Pardon. Ils ont fait quelques clean sheets quand même assez importants, assez intéressants contre notamment Nice, qui d'autres aussi.
Marseille.
Ouais, Marseille exactement. Donc des gros clubs quand même contre Strasbourg aussi. Non mais oui, voilà. Ils arrêtent de prendre des buts n'importe comment et comme vous disiez, voilà, je pense qu'ils sont sérieux. Ils ont trouvé leur formule, Sage, il a trouvé la. Oui, il a trouvé les mots à dire en fait à son équipe avec les quelques petites recrues qui sont arrivées. Il a trouvé une harmonie qui fait que maintenant ils jouent beaucoup plus détachés des problèmes peut-être administratifs, financiers du club et qui jouent juste voilà, entre bandes de potes. Et ça se voit, ils prennent beaucoup plus de plaisir sur le terrain. Même, et désolé encore, Testi, tu vas me dire que je parle toujours de lui, mais même mon petit chouchou là, Ryan Cherki, j'ai vu contre Metz, il était pas titulaire, il est quand même rentré, il a quand même célébré le but de la victoire, alors qu'il était pas du tout, il était pas du tout
Alors,
dans le
encore
jeu.
heureux qu'il s'élève.
Oui, bien
Non,
sûr,
mais le...
mais bon, en début de saison, on parlait quand même du problème Cherki, voilà, qu'il était toujours de mauvaise foi, pas de mauvaise humeur, mais toujours voilà, la tête basse. À critiquer ou à être critiqué et à seulement espérer porter l'équipe de ses deux seuls bras et voilà, en gros, de s'en foutre de l'équipe en général. Et encore désolé du terme que j'utilise, mais. Mais ouais, moi, ça me fait plaisir de voir Lyon comme ça. Comme disait Maxime, ça fait beaucoup plus plaisir de les voir là, maintenant, à la 10e place après leur début de saison que de les voir descendre en fin de saison.
Ok, non mais, et pour revenir sur Cherki, il me parle plus de lui, il m'a tellement saoulé, sérieusement, j'ai tellement cru en. Au fond, je crois encore un peu en lui, mais il m'a tellement énervé ce joueur, parce que je trouve qu'il est bourré de talent, mais quel branleur, quoi, enfin,
C'est un
agaçant quand même.
Ben Arfa, un Menez, ce genre de
C'est.
joueur
Mais.
qui aime jouer, qui aime pas forcément gagner, enfin, pas autant,
Non,
mais ils aiment
mais
jouer.
même pas, tu vois, Ben Arfa, Menez, ils ont prouvé au moins des choses, tu vois. Pour l'instant, pour moi, Cherki, c'est beaucoup de vent,
Il sera
beaucoup
très bien dans un
d'espoir.
club très épais, ce sera très bien. Il fera du bien de partir de Lyon.
Ouais, je pense aussi, on verra à ce
Oui, je
moment-là.
pense que c'est l'heure aussi, oui.
Mais c'est bien que tu parles de Lens, Alexis, puisque du coup on va basculer sur Lens. Lens, bah, qui a un peu du mal en ce moment, hein. Lens qui a enchaîné 3 matchs sans victoire, dont 2 défaites, dont une en Coupe européenne où ils perdent alors qu'ils menaient 2-0, et ils perdent le week-end dernier face à Monaco alors qu'ils font un retour de ouf, ils se prennent un but dans les derniers instants. Alors, dis-moi si je me trompe, Max, peut-être que j'en fais trop. Mais j'ai l'impression de sentir de la frustration côté Lensois. Au-delà du terrain, j'ai l'impression qu'ils sont tendus en ce moment. Que je sais pas qui. Alors, ils gagnent leur match de manière, voilà, c'est pas forcément très beau, c'est sur le fil, tu sens que voilà, on l'a dit, ils sont en reconstruction, ils ont perdu quand même 2 joueurs importants et même si certains joueurs commencent à se révéler là en 2024 hein, comme l'attaquant d'Acosta ou encore leur milieu Diouf, mais quand je vois voilà Aize, tu vois, qui a été exclu il y a pas longtemps plusieurs matchs, qui se plaint souvent de l'arbitrage, que même les joueurs sur le terrain, dès qu'ils sont menés, tu sais, même s'il y a une sorte de rébellion, mais tu sens qu'il y a beaucoup de frustration dans le sens où ils aimeraient pouvoir faire mieux, mais voilà, le cours du jeu est contre eux. Alors peut-être que je m'emballe et que c'est moi qui vois quelque chose d'imaginaire, mais enfin, voilà, est-ce que tu partages mon avis là-dessus? Est-ce que tu sens qu'il y a une frustration ou juste Lens est à sa place?
Je trouve que t'es dur. C'est bien, tu fais le journaliste au moins. Tu t'essayes de trouver justement des petites
J'essaye,
pistes. Tu fais très bien le journaliste parce que moi je trouve que la
ouais.
situation, elle a tout sauf rien de dramatique. Alors oui, elle a perdu en Coupe d'Europe contre Fribourg. C'est pas non plus un drame de perdre contre Fribourg en Ligue Europa. Quand tu regardes
Ah,
leur
mais il
dernier match,
menait 2-0.
le match est dramatique quand même.
Oui, le match est dramatique, je suis d'accord, mais c'est vrai que est-ce un drame pour Lens de faire un match sans? Pas forcément. Après, oui, il y a contre Monaco, mais bon, on peut le voir aussi voilà, ils ont quand même mis 2 buts à Monaco. Si on prend les 5 matchs avant Fribourg et Monaco, il y a quand même 4 victoires. Ils battent Toulouse, ils battent Nantes, ils battent Strasbourg, ils font juste un but partout contre Reims. Donc en soi, moi, ce que je disais au début de la saison, c'est que Lens pouvait me faire peur parce que justement, comme tu l'as très bien dit, Dusty, c'est qu'ils ont perdu 2 joueurs majeurs. Donc quand tu perds 2 joueurs majeurs qui ont une telle influence sur ton effectif, c'est compliqué. Et je trouve que maintenant, ils ont quand même réussi à faire avec leur effectif en faisant tourner justement entre et la Coupe d'Europe et justement le championnat. Ils ont un effectif où ils peuvent se permettre de faire tourner. On voit beaucoup au milieu de terrain, d'un côté, Yanaoui et Abdoul Samed, mais en même temps, on peut voir aussi Andy Diouf et Mpalis Mendy. Et quand ils mettent 2-10 un peu à la Monaco, on peut avoir du David Costa comme du Sotoka. Et en même temps, on peut avoir Fulgini et Thomasson. Je trouve qu'il y a quand même beaucoup de joueurs. Alors justement, ça fait une équipe qui est pour moi bonne collectivement. Il ne se repose pas sur des individualités comme il le faisait plutôt l'année dernière, avec vraiment les 2 joueurs qui sont partis. Je trouve que là, c'est une équipe qui est cohérente à voir jouer. Et ça me fait plaisir. Donc, oui, certes, il y a eu 2 défaites sur les 2 derniers matchs, mais pour moi, rien d'alarmant. Ils vont reprendre leur place. Ils sont 6e en championnat. Je trouve que c'est assez cohérent pour une équipe qui a quand même perdu 2 gros joueurs. Et quand on regarde ce qu'il y a juste au-dessus, Lille, Nice, Monaco, Brest qui fait une saison de fou, mais sinon c'est des équipes justement compétentes et compétitives au niveau de Lens pour moi.
Allez, Alexis, je vais te lancer aussi sur cette question-là, parce que une autre donnée aussi à prendre en compte, hein, donc Lens aujourd'hui va jouer à l'extérieur, enfin dimanche, face à l'Olympique Lyonnais. Lens à l'extérieur, c'est 4 victoires, 4 nuls, 4 défaites, donc assez équilibré. Quand à domicile, c'est 6 victoires, 2 nuls, 3 défaites. Sachant que la forme qu'a Lyon en ce moment, et quand on voit que Lens a peut-être aussi du mal à conclure et finir ses matchs face aux équipes en forme, parce que c'est vrai, hein, Maxime l'a noté, hein, ils ont quand même des belles victoires face à des équipes de moins bon standing, mais ça reste quand même des victoires. Là aujourd'hui, Lyon, on va dire, est dans un costume comme s'ils jouaient des coupes européennes alors qu'ils sont au milieu de tableau. Toi, tu penses que ce Lens-là peut voilà contrecarrer ce Lyon ce week-end, ce dimanche?
Je pense que ça va être plus ou moins compliqué parce que Au jour d'aujourd'hui, Lens et Lyon, je dirais qu'ils sont à un niveau plus ou moins égal sur le papier et même sur le terrain aussi. Mais que, voilà, comme tu disais, Lyon est poussé par cette motivation, par ces 5-10 derniers matchs qu'ils ont joués, qui étaient, je pense, beaucoup plus faciles, on peut dire ça comme ça, que les 10 derniers matchs de Lens où il y a eu beaucoup de contre-perfs, beaucoup de matchs qu'ils auraient dû gagner, qu'ils n'ont pas réussi à gagner, et qui se sont fait reprendre en fin de match. Donc ouais, encore une fois, comme Maxime disait, ou non, Thibaut disait peut-être, c'est la frustration de Lens qui se fait ressortir sur le terrain. Et c'est peut-être un peu de la même manière que Lyon avait de la frustration en début de match, en début de saison, pardon, et qui avait du mal à enchaîner les victoires. Donc je pense que Lens est plus ou moins dans cet épisode, même si c'est pas du tout pour les bonnes et les mêmes raisons. Mais pour moi, je vois pas Lens gagner contre Lyon. Je les vois pas avoir les armes voilà, pour faire ça. Après, ça fait quelques temps, voilà, comme je disais, qu'ils font des contre-perfs, mais ils restent toujours dans le bon wagon pour l'Europe, parce que, on va dire, ils ont la chance que, comme je disais tout à l'heure, que des clubs comme Lille, Nice, Reims, Marseille font pire qu'eux encore. Donc voilà, ils restent toujours accrochés, et c'est ce qui leur laisse avoir encore un peu d'espoir pour la fin de saison, je pense. Beaucoup plus que Lyon, qui a la motivation, justement, la hargne d'aller chercher du où ses places, même si je pense que ce serait un peu compliqué pour eux. Mais pour ce
Okay.
victoire, pour ce match-là, je vois quand même Lyon pas leur marcher dessus, Lens, mais je vois un match qui part dans tous les sens et Lyon qui prend le dessus quand même
Ok.
au mental.
Du coup, Thibaut, toi aussi, pour te lancer sur Lens, à quel type de compo on peut s'attendre face à cet Olympique lyonnais? Alors, pourquoi je pose la question? C'est vrai que c'est vrai qu'on a eu la chance ce week-end dernier de voir bah, Wai, pardon, marquer. C'est vrai qu'il a beaucoup de mal cette année à mettre des buts. Hein. Aujourd'hui en championnat, Wai, c'est que 4 buts pour 17 matchs joués. C'est quand même assez faible pour un joueur pour lesquels on attendait quand même beaucoup plus. C'est vrai qu'on a un Da Costa qui s'est révélé, qui a enchaîné 3 buts en 3 matchs récemment. Le Saïd en super sub qui a encore marqué le week-end dernier face à Monaco. On sent que la défense est quand même assez fébrile par rapport l'année dernière. Danso, bah, on l'a vu, qui s'est fait, alors que c'est le roc de la défense, qui s'est fait bouger quand même par Balogun. Un Medina qui est aussi très nerveux. Je crois qu'il a 40 cartons jaunes, quelque chose comme ça, depuis qu'il est en Ligue 1. Enfin, je crois que ouais, il a un carton jaune tous les 3 matchs, quelque chose comme ça à peu près en stats. Voilà. Il y a du bon. Il y a du moins bon. Toi, quel type de compo tu penses qu'on peut s'attendre face à cet Olympique lyonnais, justement, pour les bouger, les bousculer et repartir avec les 3 points?
Ben c'est ça, et comme je suis totalement d'accord avec toi, Dust, il y a du 50-50 effectivement chez Lens, beaucoup de frustration. Est-ce qu'ils sont pas finalement à leur place? Est-ce qu'ils sont pas finalement au maximum de ce qu'ils peuvent faire? Est-ce que c'est pas le maximum de cet effectif au final depuis l'année dernière? Ils sont moins piquants, comme a dit Maxime, ils ont perdu deux joueurs au primaire, devant le petit Openda et au milieu de terrain l'Ivoirien. J'ai oublié son nom, purée, comment il s'appelle?
Fofana.
Fofana, exactement, voilà, Seko. Est-ce que finalement, la colonne vertébrale, ça joue beaucoup? Effectivement, je suis aussi d'accord avec toi avec Danso qui est un peu moins bien sur les deux, trois derniers matchs, là. Et Samba, je pense Danso, faut le faire un peu souffler parce qu'il est tout le temps titulaire. Alors, il met souvent la même défense, Medina, Danso, Grady. Au bout d'un moment, les mecs, ils doivent être cramés. Ils jouent tous les matchs. Ils ont joué des matchs de coupe, des matchs de Ligue des Champions, des matchs de Coupe de France. Au final, c'est peut-être un mal pour un bien de se faire sortir de toutes ces compétitions-là, comme ça, de se focus sur le championnat. Peut-être que ça va leur donner un second souffle. Mais effectivement, je pense qu'il faut un peu les faire souffler. Au final, l'effectif, il n'est pas si énorme que ça, parce que Maxime disait qu'ils avaient un effectif pour faire ça, mais je suis pas totalement d'accord avec lui sur ce sujet. Après, bon, là, sur le dernier match, effectivement, contre Monaco, là, il fait rentrer Frankowski, Sotoka, Saïd et El Ainaoui. Généralement, ces quatre-là, ils sont souvent titulaires, hein, au final. Et le dernier match, ils ont pas joué. Donc, Peut-être là, il a dû faire tourner. Après, Pereira, comme tu as dit, il marche bien, il a marqué. Enfin, il a bien joué, surtout, il n'a pas marqué ses way, je crois qu'il marque. Voilà. Ensuite, ben, après, tu as du Thomasson, tu as du Aguilar. Après, ils ont de quoi faire, hein, mais je pense que la défense, elle est un peu. Ils sont un peu moins bien en ce moment, la défense d'Anzo, Medina, Gradit, les trois. Hein, je mets les trois dans le sac, plus Brice Samba, que je mets dedans, surtout lui. La paire, la Samba d'Anzo, ils sont un peu moins bien, donc faudrait leur. Alors que c'est des super joueurs, hein. Moi j'ai toujours aimé ces deux joueurs-là, mais il faudrait peut-être qu'ils se remettent un peu en question et que Hayes, au pire Franck Hayes, leur parle. Mais est-ce qu'au final ils sont pas à bloc, ces Lensois? C'est la question que je me pose. Après, en parlant de composition, sur la question que tu as posée, Dusty, effectivement, je pense que Frankowski, Sotoka et Saïd vont rentrer sur le prochain match. Et après, je sais pas, je pense qu'il va rester comme d'habitude, comment, je crois qu'il joue à 3 derrière et à 2 sur les côtés. Donc
C'est
je pense qu'il va rester comme ça, mais il va faire rentrer Frankowski, Sotoka, Saïd, logiquement, qui vont prendre la place de peut-être, je sais pas moi, Chavez, Diouf ou Thomasson, voilà, ou même Mendy qui n'a pas fait un gros match. Et derrière, je sais pas qui ils peuvent mettre, mais c'est pas fou non plus. À la place de Danso, ils ont qui sur. Après, ils ont pas forcément Abdoul Samed, peut-être qui Fulgini. Enfin voilà, à voir. Mais ils ont pas forcément beaucoup de défenseurs, hein, les pauvres Lensois, en défense centrale. Donc, il
Je te
faudrait
trouve
peut-être
un
faire un
peu
peu plus que.
Thibaut parce que je te trouve dur avec Lens.
Non, je
Enfin,
suis pas dur. Non, non, mais en fait,
ils ont
je pense qu'ils sont.
Kouzanov qui a joué quelques matchs, ils ont Haïdara en défense centrale qui a joué quelques matchs.
Ouais,
Rien en
Haïdara, j'avais
défense
oublié.
centrale, il y a du Gradit, il y a du Medina, il y a du Danso, il y a du Haïdara, il y a du Kouzanov. Ça fait quand même six défenseurs.
Et sur les trois derniers matchs, c'est pas fou. Hein. Je vois Danso à chaque fois que les trois derniers matchs, je crois que Danso est sur les buts. Et Brice Samba, les deux là, ils sont souvent sur des erreurs défensives, si tu regardes bien.
Je suis d'accord,
C'est.
mais il y a
Ouais.
de quoi
Après,
faire tourner.
c'est pas mes. Non, mais c'est pas méchant ce que je dis. Quand on attaque Lens, tout de suite, on se. Faut arrêter, c'est Lens, faut pas les. Juste, voilà,
Du tout,
faut
j'étais
les
le
juste les
premier à les
pousser un
critiquer
petit
en début de saison.
peu. Alors oui, je sais qu'on aime tous Lens et on aimerait bien les voir voilà, les 100 heures au rang du classement, mais je pense qu'ils peuvent aller accrocher la allez, 3, 4e place. Mais je sais pas, pour le moment là, je les vois pas plus haut. Après, justement, c'est bien qu'ils soient sortis de la coupe. Peut-être que ça leur fera un second souffle et qu'ils pourront un peu plus souffler au niveau de l'effectif. Et peut-être qu'ils reprendront leur marche en avant, parce que là, les 3-4 derniers matchs, c'était pas. Bon, après, c'est sûr que face à Monaco ou Fribourg, ça peut basculer du bon côté comme de l'autre. Donc, ils n'ont pas eu de chance non plus. Mais bon,
Ok.
là, le momentum, il est plus côté lyonnais que côté lensois. Donc, il faut qu'ils se réveillent, les petits gars derrière, en tout cas. Lens. Après,
Ok.
devant, c'est un peu positif encore. Mais bon, je suis dubitatif. Est-ce qu'ils sont un bloc? Est-ce que c'est de la frustration? Est-ce que c'est le fait de tourner à chaque fois? Est-ce que je ne saurais vous répondre sur cette équipe-là, mais j'attends mieux d'eux en tout cas.
Ok. On va faire le. Je vais vous demander un score avant de faire un tour de stade. Donc rapidement, on fait un petit tour pour donner vos pronos. On va commencer par toi, Alexis. Alexis, Olympique Lyonnais Lens. Je t'écoute.
Je vois 2-2 ou 3-2 Lyon. Comme je l'ai dit, je vois beaucoup de buts et un match qui peut partir dans un sens comme de l'autre, mais plutôt avec Lyon qui mène, Lyon qui domine. Donc ouais, peut-être 3-2 pour Lyon.
Ok. Max, à ton tour.
Moi, j'hésite entre le 1-1 et le 2-2. Moi, je vois pas Lyon gagner parce que oui, ils sont dans une bonne dynamique. Mais je pense que Lens va justement se réveiller après les deux défaites et je trouve qu'ils ont un effectif cohérent. Donc j'hésite entre le 1-1 et le 2-2, mais je vois un match nul. Allez, on va dire un match nul avec des buts. 2-2, ça va être bien. Moi, c'est comme ça que je vois.
2-2, ok. Et pour conclure, Tibbs?
Moi aussi, je vois un match nul. Je vous ai écouté hein, juste avant et j'étais parti sur la victoire de Lyon. Je vais pas mentir. suite au momentum, ils sont en confiance, voilà. Mais je pense que le chemin de Lyon va s'arrêter sur les victoires va s'arrêter là et ils vont faire un petit match nul et tout le monde va être content. Je vois bien pareil, un partout, 2-2, un but de Lacazette et un but de Wai. Comme ça, voilà, tout le monde est content, tout le monde rentre chez soi. Voilà. Donc, je vois un match nul et j'ai changé ma veste au dernier moment. Voilà, après vous avoir écouté.
Ok, bon bah comme quoi. Tu l'as peut-être réussi à le convaincre Max au final sur Lens, parce qu'il voyait Lyon au début
Ouais, j'ai
Je
tourné
vois
ma
ça,
veste
je vois
plutôt.
ça. Franchement, ça fait plaisir.
Ok,
Ah,
merci
tu vois,
messieurs. Bon.
bah,
On va enchaîner sur le tour des stades. Voilà, on va enchaîner sur les matchs du week-end. Donc, on va commencer par les matchs déjà de samedi. Donc, on va commencer d'abord par Reims-Lille. Reims-Lille, juste pour vous le rappeler, Reims avait gagné 2-1 à l'extérieur face à Lille. La journée précédente, donc la 23e journée, Lille a perdu contre Toulouse 3-1, avec voilà un retour tonitruant de Toulouse et des belles rentrées, hein, dont celle de Siro. De son côté, Reims, lui, pareil, a réussi à gagner 2-1 et à finir le match à 10 contre 11, hein. Ils sont allés chercher cette victoire au bout du bout. Il me semble même que je crois qu'ils arrêtent un penalty même les Rémois, si je me trompe pas. Enfin bref. On va commencer par toi, Max. Lille-Reims, prono. Et petit commentaire si t'en as un.
2-0 pour Lille. Je trouve que voilà, ils ont eu du mal contre Toulouse.
Enfin, Reims,
Ils vont
pardon.
ré... ils ont eu du mal contre Toulouse, Lille. Donc ils vont rectifier le tir et ils vont gagner 2-0 contre Reims.
Ok. Alexis?
Moi, je vois pas du tout Lille gagner. Je vois un beau 0-0 parce que Lille est très mauvais à l'extérieur Et oui, c'est pas bon en fait. Il faut qu'ils fassent mieux pour espérer rester dans le top 6. Ils ont une très mauvaise défense en plus à l'extérieur et une attaque plutôt mauvaise aussi. Donc oui, je vois un petit 0-0.
Ok. Et toi, Thibaut?
Alors moi, je vois un match nul comme Reims sait si bien le faire. Sur les derniers matchs, Lille m'a pas paru très très pimpant, on va dire, voilà pour le mot. Donc ouais, un match nul, pareil. Rien à franchement, parce que Reims pour aller gagner, pour aller les gêner, c'est plutôt eux qui te gênent, l'équipe rémoise, que le contraire. C'est une équipe super, on va dire. Pardonnez-moi le mot, mais super chiante à avoir joué, enfin à jouer plutôt. Donc ouais, un match nul et pareil, tout le monde est content et rentre chez soi avec ce match nul. Donc match nul, ouais. 0-0 ou un partout.
Parfait. Deuxième match du samedi soir, Clermont-Marseille. Donc pareil, Clermont s'était incliné au Stade Vélodrome 2-1 face à Marseille. On connaît le contexte marseillais avec le changement de coach Gasset, qui surprend de par ses résultats après avoir gagné et s'être qualifié en
Ça fait que
Europe
deux
face au
matchs.
Shakhtar. Ça fait que deux matchs, mais quand même, hein, faut le noter, hein, on peut pas dire la même chose de Gourvennec. Bref.
Oh.
C'est facile, c'est gratuit. Elle était gratuite, celle-là. et qui s'est imposé du coup le match dernier sur voilà un très beau score face à un Montpellier. Bon, après c'est un Montpellier un peu moribond, on attendait une petite surprise, on en avait parlé, mais au final pas de surprise du tout de la part de Montpellier. Bon, on va commencer par toi, Alexis.
Oui, merci, merci.
Clermont-Marseille, un score.
Est-ce que c'est peut-être enfin un adversaire à la taille de l'OM? Non, mais ça fait 3 mois que Marseille n'a pas mis plus de 2 buts, qu'ils n'ont pas mis de clean sheet, enfin ils n'ont pas fait de clean sheet depuis pareil 3 mois et demi. Est-ce que justement c'est pas une bonne occasion pour Marseille après ces 2 matchs contre le Shakhtar et contre Montpellier, de continuer à instaurer la patte de Gasset et de continuer sur ce qu'ils ont fait depuis une semaine et de marquer des buts, d'en prendre moins. Ils se prennent quand même un but par match, mais je vois quand même Marseille gagner, même si Clermont est toujours adepte de petites surprises, où ils ont battu par exemple Nantes il n'y a pas longtemps. Et ils ont fait un petit match nul aussi, il y a quelques temps aussi, contre une équipe qui m'a eu surprise. Mais voilà, bref, clairement, même s'ils sont derniers, faut pas partir défaitiste et faut se méfier. Parce que le petit Nicholson, c'est un petit feu follet qui est toujours là pour allumer la mèche dès qu'il trouve la brèche.
Ok. Max, Clermont-Marseille.
Ben, Jean-Louis Gasset fait le travail, donc je vais dire victoire à Marseille, et avec beaucoup de buts, parce qu'en ce moment ils sont en forme, et malheureusement Clermont, qui va sans doute descendre, va justement avoir du mal. Je vois même un 3-0 pour Marseille.
Ah ouais, sévère. en plus ils jouent à domicile, je crois, donc ouais, sévère. Ok, et toi Thibaut?
Sévère, mais c'est vrai que Marseille est en forme en ce moment, donc ouais, c'est ce que je vois.
Ok.
Jamais 203, victoire de Marseille. Ok, victoire de Marseille, 2-0 pour moi. Marseille, ça fait 2 ans qu'ils battent Clermont, donc Clermont n'a jamais réussi à battre Marseille, donc voilà, je pense qu'ils vont continuer comme ça, et c'est un match parfait pour eux, pour les relancer en championnat, donc voilà. Victoire de Marseille, et Marseille qui passe devant Rennes et Reims, qui revient juste derrière Lens, en embuscade. Voilà, ça serait parfait. Donc, victoire de l'OM.
Ça serait beau pour relancer cette course à l'Europe. Parfait. On va passer au match du dimanche maintenant. Toulouse-Nice. Alors, juste pour vous rappeler, le match aller, Nice avait gagné 1-0. Nice était encore dans sa furia où elle était imbattable. Il me semble qu'elle n'avait pas encore perdu à ce moment-là. Nice, je crois qu'ils perdent un peu après. Je crois que c'était contre Nantes. Qui perdent leur premier match, ou le Havre, je me souviens plus.
Et ouais, les gars.
Donc, ouais, Nice, enfin, Toulouse-Nice, pardon, victoire de Nice au match aller. Juste pour le rappeler, la journée précédente, Nice a fait 0-0 face à Clermont avec un nouvel arrêt de Boulka sur penalty. Hein, Boulka qui fait une très belle saison dans les cages niçoises. De l'autre côté, Toulouse, comme on l'a dit, a battu Lille avec une très belle deuxième mi-temps, avec des très belles rentrées qui ont fait la différence, hein, donc notamment avec ce but de leur capitaine Siro sur penalty. Maxime, toi, ce match Toulouse-Nice, ton prono?
Je dirais 1-0 pour Nice. Nice a fait 0-0 contre Clermont, je les vois se réveiller, et Toulouse qui a battu Monaco au dernier match, je prends un petit coup d'arrêt, mais rien de trop méchant. Moi, je dirais 1-0 pour Nice.
Ok. Tips.
Alors moi, je vois, ben, je sais pas trop, parce que Nice sur ces 3 derniers matchs, c'est pas trop ça, ils ont un peu de mal. Mais je vois quand même Nice s'en sortir au final. Alors, je vois soit une victoire de Nice 1-0 ou soit un match nul, tout simplement. Voilà.
Ok.
Et je m'étendrai pas plus sur ce match. Mais en tout cas, Nice, ils m'ont beaucoup déçu contre Clermont le match d'avant. Donc, ils sont largement capables de faire mieux. Ils sont loin des standings qu'on attend, enfin, où ils étaient en début de saison, quoi. Donc, attention à Nice, qui est un peu moins bien en ce moment. Donc, allez, mais je vais quand même partir sur Nice. Mais attention au match nul, quand même. Mais je les vois pas perdre.
Ok. De rien. Ok. On va finir par toi, Alexis.
Toujours finir par le meilleur. Non, rigole, les gars. Vous êtes les meilleurs. Du coup, Toulouse, ils sortent d'une période où ils battent quand même Lille et Monaco. C'est quand même pas rien, faut le dire. Mais justement aussi, ils se font éliminer. Bon, encore une fois, c'est plus ou moins normal, de la Ligue Europa. Et maintenant que l'Europe est finie, je pense qu'ils vont pouvoir terminer leur saison, surtout après du coup ces deux grosses victoires et qu'ils ont aujourd'hui un matelas plus ou moins confortable par rapport à l'année dernière, par exemple. Où en gros leur objectif de base c'est le maintien. Donc Donc je vois comme Max et Tibbs, je vois Nice gagner de la plus petite des différences, un petit 1-0, parce que voilà, Toulouse, je vois jouer un peu plus relâché, je pense, que contre Lille et Toulouse, non, que contre Lille et Monaco, pardon. Et Nice, ils vont faire ce qu'ils savent faire depuis longtemps, où ils prennent pas de but, avec un Bouka déchaîné. Et en attaque, c'est un peu plus compliqué, mais il y en a toujours un pour marquer un but par match.
Ok. Bon, en espérant, pardon, que ce match de 13 h du lunch soit aussi bon que celui de la semaine dernière où on avait eu Monaco lancé à 13 h. C'était parfait. Donc la Ligue continuait comme ça, nous programmait des beaux matchs de 13 h. Le multiplex, Nantes-Metz. Nantes-Metz, match aller, Metz était imposé 3-1 face à Nantes, un Nantes qui était encore en petite crise à ce moment-là. Voilà, encore une
Qu'est-ce
fois,
que
je vous
Nantes
le
n'est pas en
rappelle.
crise?
C'est vrai, c'est un peu, ouais, c'est un euphémisme, j'ai envie de dire. Au match aller, Nantes s'était imposé à l'extérieur, enfin au match la journée précédente, pardon, Nantes s'était imposé 1-0 face à Lorient. Quand de l'autre côté, bah nos amis. Messins, eux, bah, ils ont perdu face à l'Olympique Lyonnais, pardon, 2-1. On
Défaite
va
contre
commencer
Lyon.
par toi, Alexis. Voilà, Nantes-Metz, ton prono.
Du coup, Metz, un point en 10 matchs, une seule clean sheet de la saison contre le Havre en tout début de saison. Donc c'est une équipe qui se prend beaucoup de buts, souvent qui enchaîne les défaites. Je sais qu'en disant ça, je vais m'apporter toutes les foudres des dieux et qui vont mettre Nantes défaite. Parce que justement, dans le jeu, Metz reste très correct. Ils ont fait des gros matchs avec beaucoup d'espoir contre Lyon, contre Marseille. Donc on sait qu'ils peuvent faire mal. Et de l'autre côté, Nantes, ils doivent faire mieux depuis 6 mois. Hein. Même si là, depuis le début de l'année, ils font quand même un peu mieux qu'avant. Ils sont invaincus à l'extérieur. Voilà, c'est ce genre de série qu'il faut enchaîner. Même si là, ils jouent à domicile, ouais, il faut pas perdre espoir, faut pas baisser les bras. Donc, je pense qu'ils vont continuer à se battre. Je vois une petite victoire, victoire 1-0 de Nantes. Et puis j'attends vos commentaires.
Ok. Bon bah on va enchaîner avec toi Maxime du coup.
Moi, je dirais 2-1 pour Nantes.
Ok. C'est plutôt confiant, c'est direct, c'est exprès, j'aime bien.
Voilà.
Thibaut?
Ouais, pareil, victoire de je vois Nantes gagner aussi, pareil, à domicile pour faire plaisir à ses supporters et pour s'éloigner un peu plus de la zone rouge, effectivement. Donc Nantes, victoire de Nantes.
Ok,
Sur la
ok, ok.
voilà, 1-0 ou 2-0.
Ok, nickel. On va sauter, on va sauter l'ordre. Hein, on était sur multiplex, mais on va parler du match de Rennes. Rennes-Lorient. Bon, on va commencer par toi, Maxime. Rennes-Lorient. Juste, voilà, petit rappel avant tes résultats. Au match aller, Lorient s'était imposé 2-1 face à Rennes. La journée précédente. Donc, comme on l'a dit, Lorient a perdu 1-0 face à Nantes à domicile. Quand de l'autre côté, Rennes a fait match nul à l'extérieur face au Paris Saint-Germain. Quels sont tes pronos pour ce match?
Je dirais un but partout. Rennes a enchaîné entre la Coupe d'Europe, le championnat, la Coupe de France et encore le championnat. Ça fait beaucoup de matchs. Pas simple. Derby breton à la maison, certes, mais ça va être compliqué. Donc Lorient est bien depuis quelques temps. Donc je verrais un but partout pour satisfaire les Lorientais, ne pas forcément satisfaire les Rennais. Mais bon, c'est comme ça que je le vois.
Ok. Nickel. Thibaut, Rennes-Lorient.
Ouais, Rennes-Lorient, derby de Bretagne là. Pareil. Avec Rennes, quand je dis que Rennes va gagner, ils perdent ou ils font match nul. Donc là, je les vois gagnants, donc je vais dire match nul. Je vais dire match nul comme Maxime. Mais bon, cela dit, les trois derniers matchs de ce que j'ai vu de Rennes, c'était pas mauvais. Ils sont capables du meilleur comme du pire, comme d'habitude, hein, avec Rennes. Mais ouais, je les vois gagnants, donc je vais dire match nul. Un partout.
Ok.
Voilà.
Ok, ok.
Et après, parce que Lorient, attention, Lorient, c'est leur. J'ai l'impression que Lorient aime bien jouer Rennes. Donc là, les deux derniers matchs, c'était. Ça, c'est 2-1 pour Lorient sur les deux derniers matchs. Hein. Et voilà, sur les trois derniers matchs, Lorient, sur les trois derniers matchs, Lorient a gagné trois fois. Hein. N'oubliez pas. Hein. Donc,
ouais, voilà. Ils sont attention aussi, ils sont mangés un 5-0 aussi avant ça. Mais bon.
Ah oui, oui, oui. Avant ces trois matchs-là, ouais. Donc bon, mais bon, c'est toujours chaud, c'est derby, voilà.
Alexis, dis-moi tout.
Alors, je vais dire que ouais, Lorient est on fire, Rennes est on fire aussi, mais je vois quand même Rennes prendre le large et recoller au 5, au top 3 surtout. Et voilà, et enchaîner avec une victoire ce week-end. Malheureusement, Lorient, ça les fait plonger un peu plus dans les bas-fonds de la Ligue 1. Et je ne leur souhaite pas, parce que franchement, ils jouent bien depuis l'arrivée des recrues. Je le dis à chaque semaine, mais ouais, c'est vraiment pas mal. Mais malheureusement, voilà, je vois quand même Rennes gagner aussi. Peut-être ouais, 2-0, 3-1 peut-être, pour ouais. deux buts en tout cas.
Ok, nickel. Bon allez, on va essayer de conclure rapidement pour pas faire trop long. Il reste deux matchs, les gars. Donc le prochain match, c'est Montpellier-Strasbourg. Montpellier-Strasbourg, c'était 2-2 au match aller. Deux équipes qui ont perdu la journée précédente. Hein, Montpellier qui s'est fait écraser par Marseille 4-1. De l'autre côté, Strasbourg, elle, s'est aussi fait écraser 3-0 par Brest qui est en forme. C'est vrai que c'est deux équipes qui tutoient la zone de relégation et qui sont en danger. Maxime, tes pronos pour ce Montpellier-Strasbourg?
Je verrai une victoire de Montpellier. J'aime bien leur milieu de terrain. Donc Strasbourg a joué un match de Coupe de France. Je dirais là aussi 2-1 pour Montpellier.
Ok, 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 nickel. Alexis, Montpellier-Strasbourg?
Je pense que Strasbourg est au dos au mur. Il faut qu'ils réagissent après un mois de février catastrophique. Qu'ils ont essayé de gagner, mais qu'ils ne vont pas réussir. Je vois un match nul, peut-être un 1-1. Qui okay. Fait les affaires de personne, d'ailleurs.
Tellement pas, ouais. C'est vrai, t'as raison. Ouais. Et Thibaut?
Finalement, là, la patte Vieira depuis quelques matchs, ça fonctionne pas trop. Mais je vois quand même un match nul sur ce match-là. Montpellier-Strasbourg, match nul. Les deux équipes se neutralisent et on en reste là.
Ouais. Ah là là, c'est plus une patte de félin. Là. C'est ça, sa patte, elle est fatiguée là. Je pense qu'on a eu du mal à la voir cette saison. Je suis plutôt d'accord avec vous sur ce match. Et enfin le dernier match, Stade Brestois face à Le Havre. Brest qui s'était imposé 2-1 au match aller sur la journée précédente. Bah comme on l'a dit juste avant, Brest s'est imposé 3-0 face à Strasbourg. Quand de son côté Le Havre a perdu face au Stade de Reims 2-1 alors qu'ils étaient à 11 contre 10. Maxime, ton prono pour ce match?
Petite victoire de Brest qui continue sa montée encore et toujours vers le haut du classement. 1-0, victoire simple, mais 3 points arrachés.
Ok. Ok, ok. Finalement, c'est peut-être elle, cette équipe inarrêtable du championnat. Thibaut, ton prono pour ce match?
Alors oui, effectivement, Brest, ils sont deuxièmes. C'est le moment de gagner ce match-là. Donc victoire de Brest. Voilà, victoire de Brest, mais ils vont commencer à baisser en intensité, je pense. Et ça va les faire un peu descendre Brest dans les prochains matchs. Je les vois bien descendre un petit peu, mais pour le moment, je les vois gagnants sur ce match-là. Ouais. Victoire okay. De Brest.
Ok, ok. Et enfin, Alexis, Brest-Le Havre, ton prono.
Pour contrer les avis de tout le monde, je vais dire match nul. C'est pas encore une fois parce que je suis contre Brest, mais c'est juste pas possible la performance incroyable qu'ils font depuis le début de la saison là. Comme disait Tibbs tout de suite là, ils vont baisser en intensité et je pense que ça peut commencer ce week-end. Comme j'ai pensé que ça aurait pu commencer la semaine dernière ou il y a deux semaines aussi, mais voilà, je vois quand même un petit 0-0 avec le Havre qui blinde derrière pour pas se prendre de défaite.
Ok. Ok. Bah, les gars, je vous remercie de m'avoir accompagné pour cette émission, pour parler cette 24e journée de notre championnat, hein, ce championnat qui touche bientôt à sa fin, hein, qui avance à une vitesse folle. On a dépassé les deux tiers aujourd'hui. J'espère qu'en tout cas cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux, à nous suivre sur les réseaux sociaux, à commenter, à revenir vers nous si vous voulez qu'on en discute. Vous nous trouverez comme d'habitude sur toutes les plateformes d'écoute telles que Spotify, Deezer, Apple Music, sur l'ensemble des réseaux sociaux, X, Thread ou encore Instagram. Dans tous les cas, je vous souhaite une bonne 24e journée du championnat et bien sûr, je vous dis à la semaine prochaine sur Stadium Ligue 1 pour parler du meilleur championnat, bien sûr, d'Europe, du monde et de la galaxie.
Stadium Ligue 1, le podcast sur l'actualité du championnat de France de football.